Chapitre 8. Peu après que Richard eut renvoyé le capitaine avec l'ordre d'affecter davantage d'hommes à la recherche du gamin, les diverses délégations venues pour assister au mariage commencèrent à se masser autour de leurs hôtes, puis passèrent à l'action, bien pacifiquement, mais avec une grande détermination. La plupart des émissaires se contentèrent de remercier les deux époux d'avoir mis fin à la tyrannie au péril de leur vie. Mais certains posèrent des questions et attendirent avec une visible impatience ce que le seigneur Hall et la mère inquisitrice allaient leur répondre. Les jours précédents, Richard avait rencontré en privé un certain nombre d'ambassadeurs. À peine le dixième des gens qui se pressaient autour de lui et dont les félicitations et les questions semblaient sincères et dépourvues de mauvaises intentions. Une fois expédiées les formalités d'usage sur la beauté du palais et la qualité de l'accueil, les interrogations fusèrent, visant essentiellement la politique commerciale et l'éventuelle mise en place de lois communes à tout l'empire d'Aran. Richard avait promis la paix et la prospérité à tous, et à présent, on lui demandait des assurances. Durant la guerre, la priorité était de fournir des vivres et des hommes aux armées qui combattaient pour la liberté. Aujourd'hui, chaque pays se demandait comment utiliser au mieux ses ressources au bénéfice de son propre peuple et de ses intérêts particuliers. La belle solidarité d'antan émoussée, les membres de l'Alliance entendaient ne pas être laissés pour compte lorsqu'on passerait à la distribution des fruits de la victoire. Richard laissa Callan affirmer haut et fort qu'il n'y aurait pas de restrictions en matière de commerce, ni de faveurs spéciales bénéficiant aux uns au détriment des autres. Beaucoup d'ambassadeurs et d'émissaires venant des contrées du milieu, elle les incita à se rappeler la façon dont elle avait dirigé le Conseil avant l'union avec l'Empire d'Aran. Eh bien, rien ne changerait, car le seigneur Hall tenait au moins autant qu'elle à vivre dans un monde à la fois paisible et équitable. Le calme et la tranquille autorité de Callan, comme toujours, n'eurent aucun mal à convaincre ses interlocuteurs. Certains ambassadeurs lui rappelèrent cependant le fonctionnement des contrées du milieu. En Aïdindril, soulignèrent-ils, presque tous les pays membres étaient représentés en permanence. Parfois parce que leurs dirigeants y faisaient de longs séjours, mais le plus souvent par l'intermédiaire d'une foule d'émissaires et de diplomates. Ainsi, tous les pays participaient aux décisions du Conseil en matière politique ou législative. Callan répondit simplement que le palais du peuple était désormais le siège du pouvoir dans l'Empire d'Aran. En conséquence, toutes les nations membres y auraient des ambassades, comme en Aïdindril, afin de ne jamais être exclues des protocoles de décision les concernant. Cette déclaration eut un grand succès qui allait bien au-delà du simple soulagement. L'avenir s'annonçait sous les meilleurs auspices et tout le monde s'en réjouissait. Habitué à commander, Callan avait un don particulier pour revêtir de grâce et de chaleur son incontestable autorité. Elle avait pourtant longtemps connu la solitude, comme toutes les inquisitrices. Quand il la connaissait à peine, Richard avait vu des gens trembler de peur devant elle. À l'époque, son pouvoir les terrifiait et il restait aveugle à la femme qui se cachait derrière la mère inquisitrice. Le combat qu'elle avait mené pour la liberté lui valait désormais le respect et l'admiration de ceux qui la redoutaient jadis. En sa présence, ils osaient désormais relever la tête et ils avaient conscience d'avoir un être humain en face d'eux. Alors qu'elle répondait aux ambassadeurs, donc au moment le moins opportun, Nathan vint se placer derrière Richard, le prit par le bras et le tira à l'écart.
« J'ai besoin de te parler, mon garçon. »
Perturbé, Callan s'interrompit. Interrogée au sujet d'une contestation de frontières, elle était en train d'expliquer qu'il n'y avait plus rien à contester puisque l'Empire d'Aran, un et indivisible, se fichait comme d'une guigne des lignes tracées jadis sur une carte. Quand elle se tut, tous les regards se tournèrent vers le prophète, connu comme le Loup Blanc, bien entendu. Nathan, remarqua Richard, tenait dans une main les notes sur la fin, et il avait glissé un index à l'intérieur en guise de marque-page.
« Que se passe-t-il ? » murmura le sourcier tout en s'éloignant des ambassadeurs et autres officiels, soudain muet de fascination.
À l'évidence, les prédictions les intéressaient beaucoup plus que les disputes frontalières ou la législation commerciale.
« Tu m'as bien dit que le gamin sur le marché... « A parlé de ténèbres dans le palais !» murmura Nathan.
Richard se retourna vers les invités qui les regardaient toujours, le prophète et lui.
«
Je m'excuse de cette interruption, mais je serai de nouveau à vous dans quelques minutes. »
Prenant à son tour Nathan par le bras, il l'entraîna jusqu'au fond de la salle où se dressait l'imposante double porte. Zed suivit le mouvement et Callan l'imita. Captant le regard de Richard, Kara et Benjamin allèrent s'occuper des ambassadeurs, leur demandant comment se déroulait la reconstruction dans leurs pays respectifs. Dès qu'il fut sûr d'être hors de portée d'oreille des invités, Richard se tourna vers Nathan. « Le garçon a parlé de ténèbres dans le palais, des ténèbres qui cherchent les ténèbres. » Sans un mot, Nathan ouvrit le livre et le tendit au sourcier. Richard lut l'unique phrase qui figurait sur la page de droite. « Les ténèbres cherchent les ténèbres. »
« Mot pour mot ce qu'a dit le gamin, »
souffla Callan qui avait regardé en même temps que son époux. Richard faillit dire qu'il s'agissait d'une coïncidence, mais il s'épargna cet effort inutile.
« On en apprend plus sur cette prophétie fragmentaire dans la suite du livre ?» demanda-t-il.
« Je n'en sais rien, » marmonna Nathan de mauvais poil. « Comment déterminer si quelque chose dans ce fichu livre a un rapport avec le reste ? Tout peut être lié ou rien du tout. Même le présage au sujet du toit, eh bien, j'ignore s'il a un rapport quelconque avec la phrase sur les ténèbres. »
Richard n'avait pas ce genre de doute. Comment aurait-il pu s'agir d'une coïncidence ? Le livre contenait une phrase dite par le gamin et une autre prononcée par la devineresse aveugle. Tout ça ne pouvait pas tenir du hasard. De plus, il y avait eu la réaction de Sabella quand elle lui avait révélé l'avenir. Elle avait semblé surprise, comme si ces mots n'auraient jamais dû sortir de sa bouche. Au fil du temps, Richard avait appris que son don se manifestait d'une façon très particulière. Dans certains textes prophétiques, on l'appelait « le caillou dans la mare », parce qu'il était le point central des ondulations qui généraient l'histoire de l'humanité. Des événements qui semblaient à première vue fortuits avaient très souvent une cohérence interne et visaient à l'avertir de quelque chose. Tant qu'on restait en surface, on parlait de coïncidence, mais si on creusait un peu... Combien de fois avait-il évité des catastrophes en accordant de l'attention à ce qui semblait insignifiant? De nouveau, il était confronté à une énigme qu'il devait résoudre, même s'il détestait ça. En d'autres termes, il ne pouvait pas se passer de creuser.
Pour le moment, nous ne pouvons rien faire. Ne paniquons pas les invités en leur montrant que quelque chose cloche.
D'autant que nous ignorons si quelque chose cloche vraiment,
rappela Zed. Richard était convaincu du contraire, mais il préféra ne pas insister.
J'espère que tu as raison.
Zed, dit Nathan, quand on sait comment fonctionnent les prophéties, il est plus que probable que tout cela ait un lien.
Zed fit la moue, mais il ne contredit pas le prophète. Richard tenta de récapituler les données en sa possession. S'il existait un lien, il était incapable de le voir, ni même de l'imaginer.
Non, c'était faux,
s'avisa-t-il soudain. Il y avait une logique évidente dans tout ça. Les ténèbres cherchant quelque chose pouvaient avoir un lien avec le sentiment de Kara d'avoir été épié dans l'obscurité comme par hasard.
Nathan, vous avez parlé d'une femme qui travaille au palais et qui aurait souvent des prémonitions mineures.
Oui, en général, elle est aide-cuisinière. C'est par exemple elle qui coupe les légumes ou la viande pour des préparations compliquées. Quand le personnel manque, il arrive qu'elle fasse autre chose. Par exemple, ce soir, elle doit faire partie du contingent de servantes en tunique bleue qui se charge du service.
Nathan regarda autour de lui.
Cela dit, je ne la vois pas dans le coin.
Vous avez mentionné Loretta, je crois, qui aurait aussi certains talents. Elle a un présage pour moi, paraît-il.
Nathan acquiesça.
Dès que nous pourrons nous éclipser, je veux que vous m'emmeniez voir cette Loretta.
Richard, je le ferai avec plaisir, mais tu risques d'être déçu. En général, les montagnes de ce type accouchent d'une souris. Les gens ont tendance à se faire des idées sur tout, et la plupart du temps, ça n'a aucun sens.
J'espère qu'il en sera ainsi, dit Richard en regardant autour de lui, parce que ça me fera un souci en moins.
On peut voir les choses comme ça,
grommela Nathan.
Nous sommes assez près des cuisines, mon garçon. Loretta travaille pour un boucher que le palais sollicite beaucoup pour les festins comme celui d'hier et les réceptions comme celle de ce soir. Je sais où elle habite. Dès que tu pourras filer d'ici, je t'y conduirai.
Parfait. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur notre devoir d'hôte.